Star Berlin.
It's morning edition from NPR News.
Let's see things on people house.
France Inter, le 18-20.
Vivement samedi, hein, en quelque sorte. C'est à ce moment-là seulement qu'on saura peut-être si l'accord passé entre l'Europe et Boris Johnson est historique et acte la sortie des Britanniques de l'Union. On n'y est pas. Et vous saurez pourquoi dans le détail tout de suite. On va prendre le temps surtout d'essayer d'expliquer comment les choses sont censées fonctionner. Ce soir, le bruit du monde fait de la musique entre communautés à Mitrovica. Et c'est bien la seule chose qui fonctionne d'ailleurs dans ce Kosovo. On n'arrive toujours pas à se parler réellement. Amélie Perriel est en Inde. Omalouine est dans un gros festival de K-pop. Et puis le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Nous irons en Catalogne pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Il faudrait, nous dirait Jean-Marc, que chacun y mette du sien. Et pour l'instant, visiblement, c'est pas le cas. Allez, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pauline Schnapper, professeur de civilisation britannique à la Sorbonne Nouvelle. Alors on a bien compris que tout cela n'était pas fait, loin de là. Mais est-ce qu'on dit aujourd'hui qu'on n'a au fond jamais été aussi près d'un potentiel Brexit ou qu'on est exactement dans les chaussures de Theresa May il y a un an, au moment où elle signe un accord effectivement avec l'Europe et qu'elle va demander à son Parlement de le ratifier?
Je dirais quand même qu'on est un peu plus près d'une sortie possible dans deux semaines, parce que Boris Johnson est en position un petit peu plus forte que Theresa May, ce qui ne veut pas dire, on y reviendra, je suis sûre, qu'il va réussir son pari samedi, mais disons qu'il a derrière lui, a priori, une plus grande partie de son parti que ne l'avait Theresa May il y a un an. Et par ailleurs, voilà, le temps passe, les Européens se lassent.
Ouais. Et les Britanniques aussi.
Et les Britanniques aussi. Donc on n'est pas tout à fait dans la même situation qu'il y a un an. Ce qui ne veut pas dire quand même que je peux vous assurer que le Royaume-Uni sort de l'Europe dans 15 jours.
Parce que quand on entend Michel Barnier, mais aussi Jean-Claude Juncker, j'ai perdu sa phrase, ah c'est ça, nous avons maintenant un deal, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une prolongation. On sent de la part des Européens quelque chose qui dit, écoutez, faut vous arrêter maintenant, on a fini de jouer. Et ça, on l'a entendu finalement de la part de tout le monde, y compris en creux dans les phrases d'Emmanuel Macron cet après-midi.
Oui, il y a
une vraie lassitude européenne.
Il y a cette lassitude très très claire depuis mars, avril. On le sentait côté français particulièrement, mais elle est partagée partout. Juncker est même allé jusqu'à dire qu'il n'y aurait pas d'extension, de prolongation, même si le Parlement ne votait pas samedi, ce qui me paraît être du bluff, c'est-à-dire ça, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, c'est pas à lui de prendre la décision, c'est au 27. Mais ça indique bien quand même que les Européens aimeraient bien se débarrasser du dossier. Ça, on le sent depuis un moment déjà.
Alors, le deal de départ a chopé sur l'Irlande, ce fameux backstop. On a trouvé une autre solution. En gros, on n'est pas obligé de revenir à une frontière dure. Donc, visiblement, les choses de ce côté-là s'arrangent. On nous parle de contrôle qui aurait lieu en quelque sorte en mer d'Irlande. Est-ce qu'on peut imaginer à quoi ça peut ressembler réellement un deal de cette sorte-là?
En fait, c'est pas très très loin de la première proposition qui avait été faite par les Européens à Theresa May et qu'elle avait exclue à l'époque, qui était en gros, et pour simplifier, de mettre des contrôles dans la mer d'Irlande plutôt que des contrôles entre le nord et le sud. Là où ça change un petit peu, c'est que à l'époque, l'idée c'était que l'Irlande du Nord resterait dans l'union douanière européenne. Alors que là, on en est sorti au moins, d'après ce qu'on en a compris, parce qu'on n'a pas encore les textes sous les yeux, on est sorti de cette logique-là au moins en apparence, c'est-à-dire que l'Irlande du Nord resterait bien dans la même union douanière que le Royaume-Uni, pas que l'Europe, mais en revanche, elle conserverait de facto les réglementations européennes, de façon à ce qu'il puisse y avoir un transport de marchandises entre le Nord et le Sud, et donc ce sont les Britanniques qui s'occuperaient de faire les contrôles en mer d'Irlande.
Mais donc en pratique, pardon de vous le demander comme ça, mais en pratique quoi, il y a un bateau, on l'arrête, qu'est-ce que vous transportez? Vous avez des produits manufacturés ou pas?
Enfin, les contrôles se feraient au port.
Bien sûr, alors évidemment, hein, pas en pleine mer.
Mais au port, aux aéroports. Si vous voulez, l'idée c'est d'éviter la photo du douanier sur la route en Irlande. Donc dès que c'est dans un port ou dans un aéroport, c'est plus discret et on ne remue pas les conflits du passé en Irlande. Mais des contrôles, il y en aura bien, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment d'éviter cette très longue frontière terrestre entre le nord et le sud de l'Irlande.
Toujours autour de l'Irlande, qu'est-ce que c'est que cette histoire de veto que Boris Johnson voulait accorder à l'Irlande du Nord, et puis finalement donc, concrètement ça se passe
oui,
comment?
Oui, alors ça c'était autre chose, pour essayer d'amadouer les fameux unionistes d'Irlande du Nord
le DUP, qui posent problème
depuis
ouais.
le départ, Johnson avait proposé de leur donner un droit de veto, ou plus exact, enfin indirectement, c'est-à-dire donner un droit de veto au Parlement, à l'Assemblée nord-irlandaise, qui actuellement ne siège pas, qui est suspendue depuis 3 ans, mais enfin qui est censée exister depuis les accords de paix d'il y a 21 ans. Et en pratique, il s'agissait donc de donner un veto aux unionistes d'Irlande du Nord. Il a reculé là-dessus. Et donc, il n'est plus question aujourd'hui, c'est pour ça que le DUP est furieux, il n'est plus question que de donner un vote à la majorité simple, donc où le DUP n'aurait plus de majorité, à l'Assemblée nord-irlandaise au bout de 4 ans. Autrement dit, on a quasiment ôté ce droit de veto à non seulement à l'Assemblée, mais surtout aux unionistes. Et c'est pour ça qu'ils sont très mécontents cet après-midi.
Alors, ils sont très mécontents. Ils ont déjà dit qu'ils ne voteraient pas cet accord. Ils sont 10. Est-ce qu'à eux 10, ils peuvent faire capoter? Est-ce qu'il suffit de ça pour faire capoter cet accord?
Non, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a les 10, proprement dit, mais il y a aussi une partie des députés conservateurs les plus excités, j'allais dire, les plus radicaux, qui disent depuis le début qu'ils suivront le DUP. Donc, la crainte pour Johnson, c'est que ce soit pas juste 10, mais peut-être 20, 30 de son propre parti, auquel s'ajoute évidemment une bonne partie de l'opposition, la majorité des travaillistes, les libéraux-démocrates, les nationalistes écossais, et puis il y a toute la question des 21 députés qui ont été exclus en septembre. Est-ce que ces 21 députés vont dire, bah écoutez, cher ami, vous nous avez mis dehors, et ben maintenant il faut en assumer les conséquences, nous on veut pas de cet accord, ou est-ce qu'ils vont dire, on préfère quand même ça que le risque de pas d'accord?
Parce que la raison pour laquelle ils sont sortis à l'époque, pour le rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte sans accord. Donc voilà. en fond, ils sont quand même un peu entre deux chaises, les
Exactement.
Pauvres, parce que là, il y a un accord.
Exactement.
Bon ou mauvais, il y a un accord.
Donc pour l'instant, ils se sont pas prononcés. Je suppose que d'ici samedi, on y verra plus clair. Pour l'instant, comme l'accord n'a pas été publié, et je pense qu'il y a beaucoup de discussions en interne dans les différents groupes parlementaires et sous-groupes parlementaires, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore dit s'ils allaient voter ou pas pour cet accord samedi.
Est-ce qu'il y a moyen de faire pression? Je reviens au 10 du DUP. Quel est le moyen que Boris Johnson peut avoir pour faire pression sur eux, leur dire « vous êtes gentils les amis, mais là il va falloir voter ». Est-ce qu'il y en a un ou pas?
Il n'y en a plus vraiment, parce que Theresa May avait essayé de leur donner 1 milliard, ce qui était quand même pas rien pour l'Irlande du Nord. Ça a marché pendant un certain temps, mais pas il y a un an au moment de voter cet accord. Ce sont des gens qui sont vraiment arc-boutés sur l'unionisme, donc sur leur identité britannique qu'ils craignent toujours de voir supprimée. Ils se méfient même des Anglais, si vous voulez. Ce sont des gens, j'allais dire, très idéologues, en tout cas très sûrs de leur bon droit, même s'ils ne sont pas majoritaires du tout en Irlande du Nord. C'est pas des gens très souples. Ils l'ont montré déjà. On n'a pas vraiment d'exemple récent où ils aient cédé sur quoi que ce soit. Donc a priori...
Donc ça veut dire qu'ils jouent pas là, par exemple, en ce moment. Ils sont pas en train de jouer, d'essayer de faire monter la pression. On est vraiment dans quelque chose d'assez ferme.
C'est pas ce qui sort pour l'instant aujourd'hui des cercles médiatiques et politiques de Londres. Tout le monde a l'air de penser qu'ils ne bougeront pas d'ici samedi.
Alors, jouons un petit peu au scénario, un jeu auquel on a joué tellement de fois, vous et moi, Pauline Schnapper, mais peu importe. Le scénario 1, j'ai presque envie de dire que c'est le plus facile, les parlementaires approuvent le deal, on a réussi à convaincre le DUP pour une raison qui nous échappe pour l'instant, mais ça marche. Donc c'est fait.
Alors, c'est pas forcément uniquement si les 10 du DUP votent pour, c'est si tous les conservateurs votent pour. Là, c'est pas totalement exclu.
Donc, dans 15 jours, bye bye Britain. Scénario numéro 2, c'est non, l'accord n'est pas ratifié. Est-ce que Boris Johnson peut éviter un report encore un, alors que techniquement, aux yeux de la loi, il est censé aller le demander, mais on se souvient bien qu'il a dit « over my dead body », je ne le ferai que si je suis mort dans un caniveau.
Donc, absolument, c'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que théoriquement, en cas de vote négatif au Parlement, il est forcé de demander un report, soit pour des élections, soit pour un référendum. Ces derniers temps, il a dit des choses contradictoires, c'est-à-dire à la fois qu'il obéirait à la loi, c'est quand même la moindre des choses pour un gouvernement, mais aussi qu'il sortirait de toute façon le 31 octobre. Or, c'est l'un ou c'est l'autre, mais ça peut pas être les deux. Moi, je me demande un tout petit peu, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, s'il ne va pas arriver dans ce cas-là en disant, bah, écoutez, la loi disait, s'il n'y a pas d'accord le 17 octobre, il faut demander un report. Moi, je suis arrivée le 17 octobre avec un accord. Mmh. Vous ne l'avez pas voté, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Moi, je ne demanderai pas de report. Et dans ce cas-là, on aurait une vraie crise politique. Sinon, j'allais dire normalement, juridiquement, oui, il faudrait qu'il demande un report avec l'idée d'organiser des élections rapidement en disant, voyez, moi j'avais un accord, le Parlement n'en a pas voulu, donnez-moi une majorité.
Parce que crise politique, est-ce que ça veut forcément dire élection à suivre ou pas? Ou est-ce qu'il y a une voie
alors,
au milieu?
Alors, à un moment donné, oui, puisqu'il n'a pas de majorité. La question c'est quand? Est-ce que c'est tout de suite ou est-ce que c'est plus tard? Mais il n'a plus de majorité au Parlement. Donc de toute façon, s'il veut faire passer quoi que ce soit, même hors Brexit, il n'a pas de majorité.
Et alors,
donc il y aura des élections. La question c'est, est-ce que c'est maintenant, enfin très vite, dans les semaines qui viennent, ou est-ce que c'est après un éventuel deuxième référendum?
Et pour être sûr de ça, il ne peut pas passer en force et décider qu'il y a Brexit le 31 octobre, et c'est comme ça et pas autrement. J'allais presque dire, qui donne le, qui dit nous sommes sortis, le final cut en quelque sorte, c'est qui vient, on se présente en disant ça y est, on est sortis? Au bout du compte.
Alors, c'est lui qui lui peut dire nous sortons le 31 octobre, mais il peut se retrouver traîné devant les tribunaux s'il n'a pas respecté la loi de septembre qui l'oblige normalement à demander un report. C'est pour ça que je parle là de crise politique quasiment constitutionnelle, en tout cas juridique. C'est-à-dire que ça se terminerait devant les tribunaux entre le 17 et le 31. Ça paraît quand même difficile à envisager, mais on a vu tellement de choses surprenantes.
Est-ce que Pauline Schnapper, Jeremy Corbyn, n'est pas trop optimiste de croire que, en cas de réélection, il a de toute façon une bonne chance? Parce qu'on sent qu'il vise désormais un nouveau référendum. On sent bien ça pour l'instant dans le camp de Jeremy Corbyn. Est-ce que c'est un garçon trop optimiste?
Alors, si on en juge d'après les sondages aujourd'hui, oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a hâte absolument de se présenter devant les électeurs pour des élections législatives et ou pour un référendum. Mm-hmm. Or, si on regarde les sondages, pour l'instant, alors avec toute la prudence qui s'impose évidemment sur les sondages qui se sont beaucoup trompés dans le passé et on sait que l'électorat est extrêmement volatile en ce moment, mais pour l'instant, les conservateurs sont à 35% et les travaillistes et les libéraux-démocrates sont autour de 20% chaque. Donc l'idée que Jeremy Corbyn va pouvoir se retrouver dès demain aux 10 dernières suites paraît quand même optimiste, oui.
Alors, vous allez rester avec nous, évidemment. Moi, je voudrais entendre le point de vue de quelqu'un qui veut sortir et qui voulait sortir, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre ici dans Un jour dans le monde. Bonsoir David Young.
Bonsoir.
Merci beaucoup de votre présence chez nous. Je sais que vous vous dites, mais non, ce deal n'est pas acceptable. Vous, si vous étiez aux communes, vous ne le voteriez pas. Qu'est-ce qui n'est pas acceptable au fond? Et j'ai envie de dire, David Young, est-ce que pour en sortir, et donc sortir, de votre point de vue, la meilleure chose n'est pas de voter samedi?
Je pense que les puristes, les Spartans, comme on appelle les conservateurs qui ont voté contre l'accord de retrait de Madame May trois fois, ils considèrent, et je suis avec eux sur ce point, que même sans le problème du backstop, c'est-à-dire la réglementation de la question d'Irlande du Nord, l'accord de retrait n'était pas un bon accord parce que principalement ça laissait le Royaume-Uni dans un état vassal en relation avec l'Europe parce qu'il y avait trop d'alignement réglementaire demandé sans faire partie des organes de décision. Mmh. On aurait préféré une séparation plus nette.
Mais
Dès le début.
Mais, j'entends un mais, David Young, derrière.
Oui, c'est vrai. c'est que, comme je dirais, je ne commencerai pas d'ici pour avoir ma sortie de l'Union européenne.
D'accord.
J'aurais commencé. Je pense que l'erreur, et c'était à mon avis intentionnée de Madame May, je pense qu'elle a jamais vraiment voulu effectuer un Brexit proprement dit. Elle a fait semblant pendant une période et puis elle a renversé sa position pour arriver à un compromis qui nous laisse très proche. Et beaucoup des puristes, y compris moi-même, considèrent que il serait souhaitable d'avoir un report et puis une élection générale, et puis, dans le meilleur des cas, une majorité pour une sortie plus nette, mm-hmm. avec une majorité qui donnerait à Boris Johnson avec le parti Brexit ensemble, beaucoup plus de place pour manœuvrer dans les négociations.
C'est ça que vous, c'est là-dessus alors, que vous pariez, vous.
Derrière, ouais, allez-y. C'est que il y a plusieurs nuances de gris.
Ouais.
Et c'est, la question aujourd'hui, c'est quoi qui est vraiment possible? Parce mm-hmm. que si on voterait pas samedi, si on avait un report, il est possible qu'on serait obligé à avoir un deuxième référendum. Ce que je trouve absolument intolérable.
Donc, en fond, David Young, vous, et c'est intéressant parce que vous vous dites peut-être qu'une nouvelle élection nous permettrait d'avoir un Brexit plus franc et en même temps, vous n'êtes pas très sûr d'une victoire des conservateurs s'il y avait un autre vote.
Je pense que les conservateurs gagneraient dans une élection générale si on pourrait avoir une élection générale. Mais le problème, c'est que maintenant, nous avons en place cette loi qui détermine que ça s'appelle le Fixed Term Parliament Act. Ça veut dire qu'il nous faut une majorité de 2/3 des députés pour être d'accord d'avoir une élection générale. Ce qui est peut-être plus probable qu'on ait une élection générale, c'est qu'on aura voté. On va voir ce Parlement qui est très pour rester, en fait, contrairement à la population générale, et c'est ça tout le problème. Mais ce Parlement risque plutôt de voter pour un deuxième référendum que de voter pour une élection générale.
Et du coup, si vous aviez un bulletin de vote entre les mains ou si vous pouviez appeler vos collègues aux communes, là vous leur diriez, il vaut mieux voter parce que sinon, on ne sait pas ce qui nous arrive. Est-ce que c'est ce que vous leur diriez ou pas?
Vous parlez de samedi?
Ouais.
Là?
Ouais.
Alors samedi, moi, j'ai tendance à penser que Boris Johnson, il va réussir à faire passer cette fois cet accord que je n'aime pas tellement. Je salue l'analyse de Pauline Schnapper, c'est excellente. Je considère qu'on n'est pas tout à fait dans les chaussures de Theresa May parce que depuis, on a eu les élections européenne.
Ouais.
Et on a vu donc l'arrivée du parti Brexit. Mmh. Et les conservateurs ont tous peur de la destruction qui suivront, qui n'achève pas le Brexit. On s'est réunis derrière Boris avec la promesse qu'on aura ce Brexit maintenant vers le 31. Mmh. Et on a très peur. Et lui, il a montré aussi prêt à exercer beaucoup de pression sur les conservateurs. Il a expulsé les resteurs, déjà. Je pense que maintenant, il va les ramener au camp et il va menacer d'expulser les sorteurs, les Spartans, les puristes, s'ils ne se rassemblent derrière lui. Et son argument sera... C'est maintenant ou jamais le Brexit. Peut-être que vous ne l'aimez pas tel qu'il est, mais le risque est très grand. Soit qu'on aura un deuxième référendum et aussi que le parti conservateur sera détruit dans les élections à venir si j'arrive pas maintenant à livrer ma promesse. Après tout ce qu'on a vécu avec Madame May.
Merci beaucoup, David Young. On a bien compris ce que vous nous disiez, Pauline Schnapper. Moi, je trouve ça très intéressant que quelqu'un comme David Young, qui est un vrai Brexiteur, on sent bien, effectivement, on le tient, il ressemble pas exactement à ce qu'on voulait, mais peut-être que si on lâche ce morceau maintenant, ce sera pire. Est-ce que ça peut être ça, un vrai argument? Vous parliez des 21 qui étaient partis, mais il y en a d'autres aussi qui finalement ramènent tout le monde samedi derrière Boris Johnson.
Oui, il pourrait y avoir une coalition de gens, d'ailleurs pas seulement au sein du Parti conservateur, mais il y a quelques travailleurs qui sont dans ce cas-là, qui soit veulent ce qu'on disait tout à l'heure,
veulent
finir ce débat interminable et passer à autre chose, soit se disent que c'est quand même moins pire que pas d'accord du tout. Et qui du coup se rallie. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais en même temps, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se sont pas encore exprimés, des gens dont le vote va être crucial, que ce soit chez les travaillistes ou chez les conservateurs. Donc, c'est encore ouvert. Il faudrait quand même que beaucoup de gens aient très peur d'un no deal, ou à l'inverse, aient très peur d'un deuxième référendum. pour se rallier à cet accord. C'est très difficile à dire, ce soir.
Tout le monde vote sur la peur, en fait. La peur d'une chose ou la peur d'une autre, mais c'est un peu comme ça. Depuis le... Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée ensemble, Pauline Schnapper, juste avec la poignée de secondes qui nous reste. J'ai entendu Nicolas Sturgeon cet après-midi qui a l'impression, en Écosse, elle, alors d'être le dindon de la farce totale, et qui, du coup, renvoie ses électeurs à un référendum. Est-ce que c'est inévitable, ce référendum écossais, finalement, après tout ça?
À mon avis, ça le sera, pas à court terme, parce que, comme il faut l'accord du gouvernement de Londres pour pouvoir organiser un référendum en Écosse, et que les Écossais ne veulent pas suivre la voie catalane, si vous voulez, et s'opposer directement au gouvernement central, faire entrer dans l'illégalité, pour l'instant, ça n'aura pas lieu, mais à mon avis, à terme, c'est inévitable.
Pauline Schnapper, vous revenez samedi, donc on va vous faire une chambre, on va vous donner un frigo, etc. Merci beaucoup. Merci de votre passage chez nous.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite, c'est le bruit du monde. Ça se passe à Mitrovica, au Kosovo, où pour l'instant, seuls les jeunes qui font de la musique ensemble sont capables finalement de passer le pont physiquement entre les communautés. Amélie Perrier, vous nous emmenez d'abord en Inde.
À Ayodhya, c'est un lopin de terre d'un hectare et c'est des siècles de lutte entre hindous et musulmans.
Le monde à l'envers, Jean-Marc Four.
Tiens, buona tarda, buenas tardes.
Voilà, on en parle, mais c'est pas du catalan ça,
si,
monsieur.
Si, buona tarda, c'est bonsoir. Bah. Oui,
sinon, donc la Catalogne, insoluble,
ça
puisque
aussi.
Personne.
Franchement, entre espagnol et catalan, on est en train de se demander qui va craquer le plus d'allumettes.
Allez, on verra ça dans un instant. A tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini. Voici Brittany Howard, Stay High sur France Inter. Le bruit du monde ce soir est à Mitrovica. Nous sommes au Kosovo. Nous sommes au nord. Vous la connaissez, cette ville coupée en deux entre Albanais et Serbes et encore sous tension. C'est là qu'intervient la Rock School Mitrovica. C'est quoi ça? Eh bien, Lutter contre les divisions par la musique, quoi de plus simple? Les jeunes de la ville jouent dans des mixed bands. Pour certains, cette école a été même la première occasion de traverser le pont, de parler à l'autre. C'est également l'un des rares projets qui a marché alors que le dialogue serbo-kosovar franchement est au point mort. Et c'est Louis Cellier qui nous raconte cette histoire.
Alternative pop, funky, quelque chose comme ça. Je peux pas vraiment coller une étiquette sur notre musique. Mais c'est... Ouais, alternative pop, on peut dire ça, je pense.
Maintenant, on a 6 ou 7 chansons, quelque chose comme ça. On joue aussi des reprises et des trucs comme ça.
Quelques réglages à vérifier et c'est parti pour 2 heures de répétition pour Yelena, Baton et leurs amis. Ensemble, ils forment le groupe de pop-rock Electra Heart. Baton est albanais, il habite au sud de Mitrovica. Yelena, elle, est serbe et habite au nord. Pour jouer de la basse dans son groupe, Yelena passe plusieurs fois par semaine de l'autre côté du pont qui sépare la ville et les deux communautés.
Depuis la guerre, il y a toujours eu des organisations qui essayent de nous réunir entre Albanais et Serbes, en vacances ou autre. Au moins, en ce qui me concerne, je ne me sens pas étrangère quand je suis entourée d'Albanais, et ça a toujours été comme ça.
Jouer du rock avec les voisins du sud de la ville, c'est quelque chose de tout à fait normal pour Yelena. Mais à Mitrovica Nord, son choix ne plaît pas à tout le monde.
Certaines personnes ont vu quand je postais des chansons de mes différents groupes mixtes sur Facebook. Et ils m'ont envoyé des messages en disant que j'étais une traître et tout ça. Mais ça ne me touche pas, ce ne sont pas des amis proches et je ne leur accorde pas trop d'attention.
La Rock School Mitrovica a été fondée en 2008 par plusieurs ONG, l'année où le Kosovo prenait son indépendance de la Serbie. Dans un contexte politique très tendu, l'école voulait réunir les jeunesses des deux parties de la ville. Emir Hassani est l'un des profs de musique de l'école.
Nous avons ce programme qui est l'un des plus intéressants, qu'on appelle le programme Mixed Band. Il vise à ce que des étudiants de la partie nord comme de la partie sud de la ville forment un groupe ensemble et travaillent sur leur musique et leur composition.
La Rock School Mitrovica est aujourd'hui la seule école de musique présente des deux côtés de la ville. Avant d'y enseigner, Emir a lui aussi joué dans un mixed band et rencontré des Albanais pour la première fois de sa vie.
Avant l'école, non, je n'étais jamais allé dans la partie sud de la ville. J'étais assez jeune quand j'ai entendu parler de l'école. J'ai été membre d'un mixed band à l'époque et on a eu des super moments. Avec de la très bonne musique. Si je peux me permettre, on était 3 Albanais, 2 Serbes, et moi qui suis Gorani, de la minorité Gorani.
Aigle rouge et noir albanais au sud, drapeau serbe et russe au nord, slogan provocateur sur les murs. Si la situation à Mitrovica est plutôt calme ces dernières années, Serbes et Albanais sont encore loin de réellement vivre ensemble. Maria Perovic travaille pour la Maison de l'Europe située tout près du pont qui relie les deux parties de la ville.
Les écoles sont séparées. Les écoles de la partie nord sont financées et gouvernées par le gouvernement serbe. Tout. Donc, vous ne trouverez aucun Albanais qui y étudie. Et aucun Serbe n'étudie dans la partie sud. Et là, nous avons ce truc incroyable qui est cette rock school. L'idée principale est d'éviter les conflits et de rapprocher les gens par la musique et les arts. Et je pense qu'ils ont réussi.
Malgré les appels au dialogue répétés de l'Union européenne, les négociations entre le Kosovo et la Serbie sont aujourd'hui au point mort. Mais derrière les postures politiques, la majorité des 80 000 habitants de Mitrovica voudraient simplement reprendre une vie normale. C'est en tout cas ce que pense Yelena, la bassiste de Electra Heart.
En général, les gens ne font attention qu'aux choses négatives. S'il y a des choses négatives qui arrivent entre Albanais et Serbes, là, ils vont faire attention. Mais ici, à l'école, il n'y a pas de scandale. Peut-être que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler, parce que la plupart des gens font surtout attention à la politique.
En 11 ans, la Rock School Mitrovica a vu passer plus de 1100 jeunes dans ses locaux et elle accueille aujourd'hui environ 80 élèves par an. Pour cette nouvelle génération de musiciens, ce n'est pas être serbe ou albanais qui compte. Le plus important, c'est de faire de la bonne musique.
«
Louis Seyé pour le reportage d'Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Quand le bruit du monde passe sous les radars, qu'est-ce que ça donne ? Et Amélie Perrier, nous sommes en Inde. L'Inde qui est suspendue aux lèvres de la Cour suprême.
Pour un procès tout à fait exceptionnel, toutes les télés sont passées en édition spéciale hier à l'issue d'une audience marathon de 40 jours.
A big breaking news coming in at this moment. The top court after 40 days.
Voilà ce présentateur qui nous parle d'un jugement historique. Breaking news. Mais tout ça pour nous dire que les magistrats de la Cour suprême mettent leur verdict en délibéré au mois prochain. Alors l'affaire étudiée, c'est Ayodhya, un dossier qui oppose les hindous aux musulmans depuis des décennies, voire des siècles. Ayodhya, c'est un peu plus d'un hectare de terre dans l'état d'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde. Jusqu'en 92, s'y dressait une mosquée du 16e siècle. Elle a été détruite par des nationalistes hindous en décembre 92, en suivirent des émeutes intercommunautaires, plus de 2000 morts. Car les hindous y voient le lieu de naissance du dieu Ram et veulent construire un temple là, en son honneur. Et toujours selon les hindous, la mosquée du 16e siècle avait déjà été bâtie sur le site d'un temple hindou rasé par l'empereur musulman Babur. Les nationalistes hindous, aujourd'hui au pouvoir, espèrent reconquérir cette parcelle hautement symbolique. Audience exceptionnelle à la Cour suprême, donc exceptionnelle aussi, car le dieu Ram est officiellement partie civile. Wow. Il est représenté par un avocat spécialiste des textes religieux. Et lors d'un précédent jugement, le tribunal avait accordé au dieu Ram un tiers du terrain. La Cour suprême rendra, elle, son verdict d'ici le 17 novembre.
Étonnant. Allez, on vous parle beaucoup du Brexit, vous l'avez noté en ce moment, mais l'un des aspects du divorce britannique qui passe totalement sous les radars. Alors là, pour le coup, Amélie, c'est le sort des Malouines.
À plus de 12 000 km de Londres, cet archipel de l'Atlantique Sud, au cœur d'une guerre, souvenez-vous, la guerre des Malouines avec l'Argentine en 82. Aujourd'hui, ces Malouines sont britanniques, en anglais on dit Falklands. Et les 3 400 habitants de ce territoire d'outre-mer s'inquiètent de la sortie de l'Union Européenne. Léona Roberts est députée de l'Assemblée législative locale. Alors, la majorité des revenus dans les îles, nous dit-elle, proviennent de l'exportation de poissons, dont la majorité part directement en Europe. Actuellement, nous bénéficions d'une exemption de droits de douane et nous n'avons pas de quotas pour les produits de la pêche. Si cela change, nous pourrions bien sûr nous retrouver dans une situation difficile. Les recettes gouvernementales pourraient baisser considérablement. Inquiétude financière, inquiétude écologique aussi, car le Brexit se traduira par la fin de subventions européennes pour la protection d'un environnement assez exceptionnel. Là-bas, on peut voir par exemple des baleines menacées, l'albatros à sourcils noirs, 5 espèces de manchots ou encore des éléphants de mer du Sud.
Allez, on termine en musique, ou pas tout à fait d'ailleurs, avec de la K-pop.
Oui, vous savez, cette pop coréenne, musique ultra populaire, ultra puissante aussi, les retombées financières se chiffrent en milliards d'euros. C'est un gros enjeu dans le pays du matin calme. Le gouvernement soutient le secteur et donc soutient aussi ce festival qui vient d'avoir lieu à Changwon, le festival international de K-pop. Cette année, il a accueilli des artistes fans venus du monde entier, de Madagascar au Koweït, en passant par l'Espagne avec ce groupe de 4 jeunes femmes. Elles se présentent dans un clip juste avant leur morceau sur la scène du festival.
Hola, somos de Brad y venimos desde España y somos las chicas divertidas.
Et voilà, ces jeunes femmes mélangées ensuite, quand elles vont se produire sur scène, vous allez les entendre là, pendant le festival. Elles mélangent le coréen, l'anglais, un petit peu d'espagnol. À vous de voir si vous aimez ce kimchi. Le kimchi, c'est un plat local où on mélange beaucoup de choses. Les artistes du monde entier donc ont répété des mois pour danser les chorégraphies de K-pop. 6400 équipes devant, représentant 80 pays. Là, vous entendez donc la finale avec les 13 meilleurs, dont ces Espagnols. Notons que le gouvernement sud-coréen en fait un outil de soft power, un outil de rayonnement international par la musique, un moyen d'attirer la sympathie de jeunes à travers le monde entier.
Et justement, tiens, en parlant de rayonnement international, Amélie, puisque ça vous parle et qu'on vient de l'apprendre, la mort de la chorégraphe et danseuse cubaine Alicia Alonso, 98 ans, une légende totale.
Absolument, dans la danse classique, on ne connaît qu'elle à La Havane. La Havane, il faut savoir que c'est une école de la danse classique très reconnue, il y a un opéra magnifique et Alicia Alonso, elle dirigeait cette école de danse, elle faisait encore des chorégraphies. À 98 ans, elle dirigeait encore le ballet national et donc elle vient de mourir. J'imagine que Cuba est en deuil ce soir.
Il paraît qu'elle avait été nommée, je ne sais pas si on dit ça, Prima Ballerina Assoluta, qui est un titre honorifique.
Ah, c'est l'un des titres suprêmes dans la danse classique.
Dans la danse classique. Merci beaucoup Amélie Perrier. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans les journaux d'Inter.
journey away. I may be long to see me lonely. Never join your own now. I may be long, I see me lonely. Ibi ele mongo dola, ona kile masa bunyuma, dunya bechendi. Tegele me mongo dola, ona kile masa bunyuma, dunya bechendi. Dabe yele la lomino, dabe kasi wolonde la. Nuya bekeni
Abbé Victor Démé sur France Inter, Dionne Maya.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, la Catalogne est en train de s'enfoncer dans le chaos depuis trois jours. Des affrontements violents qui se multiplient. La journée de demain s'annonce très tendue. Grève générale à la clé. Sur fond, une nouvelle fois, de revendications indépendantistes. Et pour vous, les Espagnols comme les Catalans ont perdu tout bon sens dans cette affaire. C'est la démocratie qui a la tête à l'envers.
Alors les scènes sont très violentes. Depuis trois nuits, Barcelone et plusieurs villes catalanes sont en proie à ce qui ressemble à quasiment la guerre civile. Donc à nos portes, au cœur de l'Europe, routes coupées, barricades, voitures brûlées, cocktails Molotov, de véritables émeutes, de la guérilla urbaine, et ça se dégrade de jour en jour ou de nuit en nuit, comme vous voulez. En face, les forces de l'ordre répliquent parfois tout aussi violemment avec tirs de balles en caoutchouc. Le bilan est difficile à établir, au moins 200 blessés du côté de la police. Et à partir de la nuit prochaine, c'est alerte rouge parce que 5 cortèges sont partis de plusieurs villes de Catalogne pour rejoindre Barcelone demain matin. Ces cortèges qui bloquent des routes, des autoroutes, des voies ferrées sont pacifiques pour le coup, mais la jonction avec les groupe violent peut faire craindre le pire. Et c'est bien ça le fait nouveau dans cette Catalogne de près de 8 millions d'habitants où un petit peu moins de la moitié de la population veut l'indépendance. La contestation était restée non violente jusqu'à présent, souvent festive. Au début, on appelait même ça la révolution des sourires, souvenez-vous. C'est du passé. Désormais, de nombreux manifestants qui sont organisés via une application internet cryptée, Tsunami Démocratique, revendiquent la violence et ils y voient la seule solution. Donc la radicalisation est en marche et les leaders politiques indépendantistes ne font pas grand-chose pour calmer l'affaire. Face aux affrontements, le président catalan Quim Torra a d'abord gardé le silence, puis l'a condamné finalement du bout des lèvres la nuit dernière.
Donc attendez, vous nous dites que c'est d'abord une irresponsabilité des indépendantistes catalans ?
Pas seulement, parce que de l'autre côté, c'est pas beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres et provoqué ce déchaînement de violence ? La condamnation lundi par la justice espagnole de 9 leaders indépendantistes à des peines de prison ferme, entre 9 et 13 ans de prison pour sédition et détournement de fonds publics. La justice leur reproche en fait d'avoir proclamé unilatéralement l'indépendance après le référendum d'octobre 2017. On s'en souvient. On peut comprendre que la justice espagnole souhaite préserver l'intégrité du pays, mais ce verdict sévère, les personnes en question n'ont quand même tué personne, met de l'huile sur le feu, il alimente le ressentiment de nombreux Catalans, il diminue les chances d'une réconciliation. Et puis il ne faut pas s'y tromper, avec ce verdict, c'est l'État espagnol profond qui s'exprime dans sa volonté d'éradiquer la contestation catalane. Parce que la justice espagnole n'est pas un modèle d'indépendance, elle est très liée au pouvoir et aux partis politiques à Madrid. Le Conseil de l'Europe l'a d'ailleurs souligné déjà à plusieurs reprises. Ce verdict, c'est donc un refus politique en fait de toute négociation. Et d'ailleurs, à trois semaines semaine des élections en Espagne, elles sont prévues le 10 novembre. La radicalisation est aussi à l'œuvre à Madrid. L'extrême droite et une partie de la droite demandent des sanctions encore plus sévères, une répression accrue, une mise sous tutelle de la Catalogne. Et là encore, ça s'appelle craquer des allumettes.
Alors, mais qui peut y faire quelque chose ?
Alors, les deux parties sont quand même embarquées dans un cercle vicieux. La radicalisation des uns provoque la radicalisation des autres, et ainsi de suite. On connaît ce type de processus. Sur les réseaux sociaux, tout le monde se traite réciproquement de fasciste. D'ailleurs, le seul fait de traiter ce sujet dans cette chronique va à coup sûr m'attirer les foudres les uns comme les autres, oui, ça c'est gagné. Toute confiance a disparu, il n'y a plus que de l'agressivité. Alors qu'on en soit là à Hong Kong, c'est une chose, mais qu'on en soit là à Barcelone, dans un pays de pluralisme démocratique, c'est quand même inquiétant, un peu démoralisant. Alors j'oublie pas votre question, qui peut faire quelque chose ? La sortie de crise, elle ne se fera que par un compromis politique. Et comme les deux parties sont braquées, il faut peut-être imaginer un ou des médiateurs. Ça a fonctionné par le passé en Irlande du Nord, au Pays Basque. Et là, on pense forcément à l'Union européenne. Elle est la mieux placée, sauf qu'il y a un hic, c'est qu'elle ne veut pas. Les chefs d'État européens estiment que c'est une affaire de politique intérieure espagnole. Tout simplement parce qu'ils veulent pas ouvrir une boîte de Pandore. Chacun veut rester maître chez lui, ne pas voir l'Europe s'immiscer dans ses affaires. Ça peut s'entendre là encore, mais c'est un peu court parce que si la Catalogne basculait vraiment dans la guerre civile, ça serait davantage qu'une affaire espagnole.
Et on surveillera ça évidemment de très près, on y reviendra d'ailleurs sûrement très vite dans Un jour dans le monde, Jean Marfour et le monde à l'envers, merci beaucoup. Le 18-20, la suite comme tous les soirs, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis le téléphone sonne, merci beaucoup de passer la soirée avec nous.